Oh, avec tout le monde, oublié de partir la machine. Donc, Job 30, on a lu les versets 19 à 26. Alors, ce qu'on vient de lire ici, Job communique ici ce qu'il ressentait du milieu de sa souffrance. Et peut-être qu'à certains moments dans votre vie, ou peut-être même maintenant, c'est peut-être comme ça que vous vous sentez. Et certainement, Dieu a compassion, il voit, il comprend ces choses, cette souffrance par laquelle on peut passer. Mais pourquoi est-ce qu'il le permet? Pourquoi est-ce qu'on lit à l'ouverture du livre que l'Éternel dit à Satan, « Voici ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis au chapitre 2, ça continue en disant, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. » Job, sa santé, seulement épargne sa vie. C'est quand même, ça me rend perplexe, Dieu qui a fait un deal comme ça avec Satan. Pourquoi? Ben, je pense que la réponse biblique la plus simple, la plus claire, c'est que Dieu poursuivait un but avec Job qui était beaucoup plus grand que son confort immédiat, que l'absence de souffrance dans sa vie. En fait, Dieu poursuivait Job. Lui, Job. Et il le poursuivait en voulant le briser. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'attaquer à l'obstacle numéro un qu'il y avait entre lui et son serviteur Job, le même qu'entre nous et Dieu. Savez-vous c'est quoi? J'ai souvent parlé, et ceux qui sont là le mardi pour la classe de survol, je n'ai parlé, on a deux grands péchés racines, deux grands péchés fondamentaux dans notre vie, l'orgueil et l'incrédulité. Hein, l'orgueil, c'est penser qu'on sait mieux, puis qu'on est indépendant de s'organiser nous-mêmes. L'incrédulité, c'est pas croire à ce que Dieu dit, puis bon, croire aux mensonges et tout ça. Quand on met les deux ensemble, ça donne quoi? Ça donne ce mot, indépendance. On vit de façon indépendante de Dieu. Et c'est ce que Dieu voulait faire dans la vie de Job, s'attaquer à cet obstacle numéro un qu'il y a entre tous les humains et leur Dieu, même pour les serviteurs les plus dévoués à l'Éternel comme Job, l'indépendance. Dieu voulait amener Job au bout de lui-même, de ses droits, de ses capacités, de sa justice propre, et de puiser, le fait aussi qu'il puisait son acceptation dans son statut et ses relations dans la communauté de Dieu, qui disait, ah là je me promenais, puis les gens même me voient du respect, puis là on a vu le changement, là, les gens, je suis la risée de même les plus jeunes, voyez-vous comment Dieu il le dépouillait de tout ça, il n'avait pas juste perdu sa famille, il avait perdu tout son statut social et sa stature devant les hommes. Et là, les gens qui venaient le consoler, finalement, aussi, renchérissent parce qu'ils, enfin, ils disent, c'est ça ton problème, t'es rendu méprisable, t'as dû avoir quelque chose qui doit expliquer ça et tout ça. Donc, Dieu l'a amené au bout de lui-même, de ses droits, de ses capacités, et de tout ce qui, sur ce sur quoi il pouvait s'appuyer ici-bas. Pourquoi? Parce que Dieu avait un rendez-vous de planifié avec son enfant. Et ce rendez-vous-là, on le voit dans le chapitre 38 jusqu'à 41. Et ce qui est tellement impressionnant, c'est que tout le long du livre, on a toutes sortes de noms pour Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, puis des noms un peu épeurants, comme Dieu est grand, puis... mais comment Dieu se présente à Job dès qu'il se met à lui parler, puis en passant, Job, tout le long du livre, il criait à pouvoir parler à Dieu. Il dit à ses amis, « Ouais, vous autres, vous entendez bien, mais j'aimerais ça que lui m'entende, que lui me réponde. » Puis qu'est-ce que Dieu fait? Première chose, chapitre 38, verset 1, « L'Éternel s'adressa à Job du milieu de la tempête. » L'Éternel, c'est le nom de l'Alliance. C'est le nom qui dit, « Je t'ai pas oublié, Job. Tu es mon bien-aimé. Tu es celui que j'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est comme ça qu'il s'est présenté à lui. Et donc, il y avait un rendez-vous où est-ce que Dieu voulait lui donner le plus précieux des trésors, même s'il avait tout perdu ici-bas. Dieu voulait se donner lui-même à Job, le Dieu de l'Alliance. Il se présentait à lui. C'est ça, le trésor du livre de Job, c'est Dieu lui-même. Et pour faire un peu le pont avec ce qu'on a vu, si vous n'avez pas écouté le message, je vous dirais que les messages ont beaucoup de suite dans les idées. Là. Ben, c'est le Seigneur à travers comment il dirige. La semaine dernière, il y a des choses que je pense qu'il y a un lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé de culture d'honnêteté que le Seigneur développait dans notre Église. Et je crois qu'avec ce qu'on va voir aujourd'hui, pour qu'on soit équipé, préparé pour le présent, ce que le Seigneur a pour nous, là, et pour aussi ce qui est dans l'avenir, lui qui tient toutes choses entre ses mains. C'est tellement important qu'on considère les vérités d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va apprendre à marcher par l'esprit. Et tout ce que ça veut dire aussi dans nos relations interpersonnelles. C'est-à-dire que je crois que le Seigneur veut, dans nos vies personnelles, mais aussi collectivement, produire en nous, au milieu de nous, il veut se révéler à nous, nous montrer nous-mêmes qui nous sommes aussi, pour produire la conviction profonde que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et je dirais, tu sais, on parlait de la semaine dernière, les techniques de la chair, comment des fois on a nos mécanismes de défense, comment on est habitué de répondre sur le pilote automatique, il arrive quelque chose, puis bon, telle personne réagit de même, telle autre de même, tu sais, on a nos façons typiques de réagir nous-mêmes. Le Seigneur veut briser ça. Mais gloire à Dieu aussi, il veut nous montrer, il veut nous enseigner comment répondre par l'Esprit, comment marcher par l'Esprit, en dépendance à lui. Savez-vous quoi? La différence, quand on répond par la chair, on dépend de nous-mêmes. Même quand c'est beau, puis Dieu aide-moi, puis on peut tout faire ça de façon indépendante, alors que marcher par l'Esprit, c'est une dépendance. Christ, Dieu lui-même venu sur terre, marchait constamment en dépendance à son Père. Il n'y avait aucune œuvre de la chair dans sa vie. Et c'est ça à quoi Dieu nous appelle, à marcher par l'Esprit. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit avec deux grands axes de notre marche avec le Dieu qui est la source de vie authentique. On commence le mois de février, Dieu notre source de vie. Mais c'est quoi cette vie authentique ou cette authentique vie, la vraie là? Ben deux grands axes. D'abord, cette vie-là, c'est d'apprendre une nouvelle façon de penser. La vie avec Dieu, là, c'est apprendre une nouvelle façon de penser au complet. Savez-vous que Job, le livre de Job est vraiment d'actualité par rapport à, tu sais, des fois on parle de thérapie moderne, là, les, tu sais, que ce soit de Freud à Maslow, puis il y a toutes sortes, bon, la psychologie, puis toutes sortes de choses. Il y a quelque chose dans Job qui résonne exactement avec tout ça qu'on voit dans notre monde actuel, mais qui, on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que la dynamique qu'on voit dans les conversations du livre de Job, entre Job et ses amis, là, ce qui se passe, là, c'est le portrait millénaire de la différence entre la pensée de l'homme et du monde versus la pensée de Dieu et de sa parole par rapport aux problèmes de la vie puis comment s'en sortir. Autrement dit, là, les amis de Job, il y avait « T'as un problème, Job? On va te montrer comment t'en sortir. » Voici comment... Puis ça, c'est la pensée de l'homme. C'est pour ça que Dieu n'était pas d'accord avec eux autres parce qu'il y a foncièrement une erreur par rapport à tout ce qu'ils disent. Ou pour le dire dans des termes rédempteurs, les amis de Job avaient un diagnostic selon le mauvais arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, et amenaient Job à se nourrir aussi à cet arbre. Alors, qu'est-ce qui est dans le cœur de Job? Il crie après celui qui est la vie. Je sais que mon rédempteur... Voyez-vous le cri de Job? Il ne comprenait pas tout, il était tout mêlé comme les autres, mais dans son cœur, il criait à Dieu. C'est lui qui voulait voir, c'est lui qui voulait rencontrer dans tout ça. C'est ça que Dieu lui a donné. Et on sait que ce qui ressort, tu sais, les trois amis, là, hein, j'ai pas pris leur nom, Eliu, c'est le dernier à parler, là, mais en tout cas, les autres, là, Eliab, les trois, ça nous dit à la fin qu'ils n'ont pas parlé avec droiture de Dieu. Ils ont donné différentes façons ou différentes façons de penser, si vous voulez, pour régler son problème. On va te dire, Job, comment que tu dois régler ton problème? Il y avait toute une façon de penser derrière ça. Il y avait toute une approche. Et dans le fond, moi, je sais qu'il était sincère, qu'il voulait l'aider. On le voit au début qu'il allait là, puis il était dans le désir de le consoler. Ils veulent vraiment l'aider, mais ils l'aident vraiment pas. Puis ça, savez-vous quoi? Pensez-vous que c'est encore d'actualité? De vraiment vouloir aider quelqu'un, mais finalement, ça l'aide vraiment pas. Ou de vraiment vouloir s'aider, s'en sortir, puis que finalement, ça marche vraiment pas. Parce que leur message, essentiellement, c'est « Fais ceci et tu vivras. » C'est toute la façon de penser qu'il y a derrière ça. Job, si tu m'écoutes, là, ça va bien aller. Là, tu vas avoir la solution. Si tu appliques cette façon de penser, cette façon de résoudre les problèmes, ton problème, ben tu vas continuer à vivre. Tu vas retrouver la vie. Ça va aller bien pour toi. C'est ce qui ressort des trois amis, sans cesse. Par contre, ce que Dieu faisait dans la vie de Job, et Élieu, le dernier, le plus jeune à parler, comprenez l'essence de ça, mais qu'est-ce que Dieu faisait? Il l'amenait à abandonner toute espérance dans ses propres forces, dans sa propre sagesse, puis sa confiance en lui-même. C'est pour ça que Job, il dit, quand même, il me tuerait. Je ne cesserai d'espérer en lui, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Je veux dire, il arrivait à voir que le seul issue qu'il avait devant lui, c'était la mort. Mais Dieu, justement, amenait toute espérance humaine ici-bas à être brisée et que ça soit une dépendance totale à Dieu, à sa vie, exclusivement. Voyez-vous l'idée de indépendance et dépendance? Les amis avaient une façon de voir les choses pour dire, voici, si tu fais ça, tu vas retrouver ta façon de fonctionner. Indépendant. Fais ça, puis ça va bien. Puis il servait de Dieu, il avait beaucoup d'idées de Dieu là-dedans, alors que Dieu voulait briser toute cette indépendance, puis l'amener à une totale dépendance à lui. C'est ça que ça veut dire de vivre par Dieu, notre source de vie authentique. La vraie vie authentique, celle de Dieu, ne se trouve pas dans la sagesse de ce monde, dans les ressources de ce monde. Pourquoi? Parce que si j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans ma chair, ici-bas sur terre, avec tout ce que ça comprend d'être dans un monde déchu, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ça dit autrement aussi dans Galates 5, 16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair a des désirs, des pensées, des manigances, des stratagèmes. Mais sont opposés à ceux de l'esprit. Voyez-vous l'ampleur du renouvellement de l'intelligence, de nos pensées que le Seigneur opère lorsqu'on est un enfant de Dieu. C'est deux façons de penser diamétralement opposées, totalement à l'opposé l'un de l'autre. Et leurs buts sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Comme les amis de Job, la psychologie, puis le counseling chrétien et tout ça, ce qu'on voit de nos jours, ce qu'ils disent en essence, c'est « tu peux, tu vas t'en sortir si tu fais ci, si tu fais ça. » C'est ça la façon de penser. Tu peux t'en sortir si tu fais ça. Voyez-vous le « tu », comment que on prend, si on le prend pour lui personnaliser, « je peux m'en sortir si je fais ci, si je fais ça. » C'est un effort de donner à celle-là qu'on aide plus d'autonomie. Et là où c'est encore plus trompant, c'est que c'est quand on dit avec l'aide de Dieu. Dieu va t'aider à t'en sortir, ça l'est mieux. Mais au bout du compte, si on est plus indépendant, plus autonome face à Dieu, on est comme des consolateurs fâcheux dans Job, on a passé à côté complètement. Complètement. Parce qu'on n'est pas plus proche de Dieu, on n'a pas découvert notre Dieu. Alors que Dieu, lui, ce qu'il fait dans sa grâce, des fois, on peut penser à une expérience de Job, ça peut être une expérience de Pierre. Pierre qui avait une grande force naturelle, qui avait une tendance à s'appuyer là-dessus, puis qui s'est pété le nez pas à peu près. C'est que ce soit une expérience ou l'autre qui nous brise. Qu'est-ce que Dieu faisait dans la vie de Job, dans la vie de Pierre? Il brisait ce désir, cette mentalité d'autonomie. « Seigneur, je suis capable, je vais faire vraiment mon mieux pour toi. J'ai pas besoin de ton mieux. J'ai besoin de ta confiance que moi, je vais faire tellement mieux au-delà de tout ce que tu demandes puis même que tu penses. En toi. » Et c'est ça que Dieu voulait faire dans la vie de Job, dans la vie de Pierre, puis dans nos vies. Et savez-vous, cette mentalité indépendante, autonome, s'est forgée là, par des années de techniques de notre chair. Certains ont une chair perfectionniste, tout est sous contrôle. Il n'y a qu'une chair qui s'arrange un peu, tu sais, comme en plein milieu de la rue, là, middle of the road, comme pas trop mal, pas trop bien, puis on s'organise. Puis il y en a d'autres que leur chair a fait vraiment dur. Leur chair, c'est évident que c'est de la chair, puis mettons, ils vont être très colériques ou ils vont prendre des substances ou. Mais que ce soit la chair d'un extrême ou de l'autre, la chair, c'est la chair, elle sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que qu'elle paraisse bien, qu'elle paraisse pas trop mal ou qu'elle paraisse pas vraiment mal, c'est la même idée, c'est que c'est la solution d'indépendance face à Dieu. À ce sujet-là, je vous invite à considérer, je vais vous lire deux passages d'Ésaïe pour que vous voyez que quand Dieu veut nous sortir de ces patterns de la chair, regardez la grâce de ce que Dieu fait. D'abord, la mission messianique. Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » Ça parle de Christ. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Voyez-vous, l'échange de brisé à rebâti, de la cendre pour un diadème. Écoutez aussi Ésaïe 57. Versets 14 à 19, on dira « Frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et afin de ranimer les cœurs contrits. » Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et j'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je les guérirai. Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. C'est exactement ça que Dieu faisait avec Job, avec Pierre, je pense pas mal qu'il est en train de faire avec beaucoup d'entre nous. Dernière chose par rapport à apprendre une nouvelle façon de penser, on pourrait dire une façon biblique, une façon christique de penser. La façon biblique de penser, c'est lorsqu'on voit les épreuves, les calamités, on le voit comme Dieu qui est en train de couper le flot de la chair pour nous amener à puiser à Christ, Dieu, la source d'eau vive. Dieu, quand il amène les épreuves, il dit « Je coupe la façon naturelle avec laquelle tu t'en sors d'habitude, ce flot-là d'empoisonner des eaux de la chair, pour que tu viennes à moi la source d'eau vive. » Amen. Maintenant, la pensée du monde de son côté, la pensée de l'homme, la pensée du monde, c'est d'aider, puis on peut prendre le mot thérapie en tout cas, d'essayer de débloquer la pompe à eau de la chair. Et on là, ça marche plus, mes techniques de la chair, ça marche plus, je suis malheureux, ça va mal. Viens, je vais t'aider, on va débloquer ça. Je vais donner des nouvelles techniques pour améliorer ta chair, pour trouver des nouvelles façons de refaire commencer à couler l'eau. Vous savez, ouais, tout ce temps-là, pourquoi c'est un échec total? Parce qu'on ne va pas à la source d'eau vive. C'est ça le problème. Voyez-vous, c'est un problème d'indépendance. C'est pas un problème de solution, ça marche-tu? Parce qu'il y a des solutions de la chair qui peuvent marcher et avoir un certain effet. Mais si on ne va pas à celui qui est la source d'eau vive, c'est un échec total, bibliquement parlant. Pourquoi? Parce qu'on a appris à fonctionner, mais de façon autonome et indépendante. C'est le plus grand drame qui puisse arriver dans nos vies. Et lorsque Dieu travaille dans nos vies comme ça, avec la calamité, avec les problèmes qui nous arrivent, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il nous fait la grâce, il nous amène au point où est-ce qu'il veut faire de nous une œuvre, un trophée de sa grâce. Et on va pouvoir dire, l'Éternel sera toujours ton guide. J'ai eu des beaux versets d'Ésaïe aujourd'hui, 58, 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent point. Pourquoi? Parce que ça vient de Christ, de Dieu, la source d'eau vive. Donc, voulez-vous apprendre une nouvelle façon de penser? Apprendre la vie de la foi, la marche par l'esprit? Ben alors, il faut accepter de passer par l'expérience de Job, de Pierre. C'est inévitable. C'est comme ça que ça se passe. Parce que Dieu permet ça pour nous transformer dans notre intelligence. Donc c'est ça, apprendre une nouvelle façon de penser. Et deuxième axe, de vivre par Dieu, notre source de vie authentique. Non seulement apprendre une nouvelle façon de penser, mais aussi une nouvelle façon de vivre. En simple, c'est quoi la nouvelle façon de vivre? Le juste vivra par la foi. Habacuc dit par sa foi. C'est la marche de la foi. C'est l'alternative de Frank Sinatra. N'as-tu ici connaître « I did it my way » Ça n'a pas de bon sens, sa chanson. Mais c'est ça que le monde dit, n'est-ce pas? Là, il n'y en a pas qui connaissent, en tout cas, c'est une référence culturelle. Là. C'est un crooner américain. Là, dit, « I did it my way ». Mais c'est vraiment pas biblique, ça. La foi, c'est le faire à la façon. « I did it my way », c'est « Je l'ai fait à ma façon ». Il se glorifie de ça. C'est ça la chanson. Comparez ça à Jean 4:7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux qui veulent avoir leur façon, mais il fait grâce aux hommes. » Et faisons attention. Avoir sa façon, c'est pas tout le temps mauvais. C'est pas tout le temps aussi évident que je l'ai fait à ma façon. Des fois, c'est « Dieu, vraiment, là, je veux t'honorer là-dedans. Peux-tu m'aider? » Mais la dépendance n'est pas à la bonne place. Ça ressemble à de la dépendance de Dieu, mais c'est notre chair qui essaie de s'en sortir soi-même. Puis la dépendance, la foi, n'est pas transférée à Dieu. C'est pour ça que ça dit, une autre citation de ce verset dans 1 Pierre 2:2, même dans nos rapports interpersonnels, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ce que Dieu repousse le plus et le plus fort, c'est notre indépendance. C'est notre désir de faire les choses nous-mêmes. Les œuvres indépendantes de notre chair. En fait, la Bible les appelle des œuvres mortes. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? C'est-à-dire que ce n'est pas les œuvres qui sont le fruit de la vie de Christ, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Il nous a créés pour dépendre de lui. Mais nos façons de faire, nos comportements, nos réactions habituelles, tu sais, on dit les réactions charnelles, là, c'est ça qui nous fait penser, qui nous fait croire qu'on est au contrôle. Ah, là, j'ai trouvé une façon de trouver la stabilité. Puis souvent, ça peut marcher, c'est vrai. C'est pour ça qu'on les fait puis qu'on les répète, mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est encore plus sur notre appétit. On a encore plus le sentiment d'échec, puis ça nous amène encore plus loin dans ce découragement, puis même ça peut aller jusqu'au désespoir. La chair ne sert à rien. Elle ne donne pas la vie. D'ailleurs, la chair n'aime pas la vie. Parlez à votre chair de Christ, de sa vie, puis de ses solutions, puis elle n'aime pas ça. Elle a des raisonnements. C'est pour ça qu'elle nous parle que on ne combat pas avec des armes charnelles, avec la parole, la prière, l'Esprit de Dieu. On renverse les forteresses et les raisonnements parce que notre chair a des bonnes raisons de se trouver des solutions. Puis elle défend son indépendance. Elle n'aime pas la vie. Puis la chair la chair est inimitié contre Dieu. Elle s'oppose à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on l'a vu, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes, puis tout ce qui n'origine pas de lui, ce que Dieu n'initie pas, il ne le bénit pas. Fait que quelqu'un peut dire, waouh, c'est tellement beau ce qui m'arrive. C'est vraiment super, c'est une bonne idée. C'est une bonne façon de faire. Ça me fait sentir bien. Est-ce que ça veut dire absolument que c'est la volonté de Dieu? Parce que d'abord, c'est pas la bonne perspective parce que ça pose pas la bonne question. Ça présuppose que c'est forcément bon parce que ça me fait sentir bien. Ou parce que j'étais pas bien, puis là, je suis mieux. Ça, c'est la mauvaise pensée. C'est en fonction du bien puis du mal. Ça revient avec des choses qu'on a dit avant, là. Mais comment ça, c'est différent de la façon de penser du monde? Le monde dit la même affaire. « Hey, j'étais pas bien, puis là, ça va mieux. » C'est quoi la différence d'abord entre un chrétien et un non-chrétien, si c'est cette façon-là de penser? La question, son problème, c'est qu'elle n'est pas selon le bon paradigme. Elle est selon le bien puis le mal. Comment me sortir du mal pour rentrer dans le bien? Comment être de quelque chose qui est bon puis qui est encore meilleur? Autrement dit, comment changer de branche dans mon arbre, la connaissance, puis du bien, puis du mal? C'est ce que le monde fait constamment. Ils sont dans cet arbre-là parce qu'ils ne sont pas connectés à la vie. Christ est la vigne, Christ est l'arbre de vie. Quand on est sauvé, on est en lui, mais si on n'est pas en lui, c'est là qu'on a. Puis comme chrétien, on peut tomber dans le piège d'essayer de trouver nos solutions, notre vie dans cet arbre qui promet la vie, qui promet que ça va aller mieux, mais que l'issue, c'est tout le temps la mort. Non, la bonne question à se poser, c'est d'où origine, d'où part, d'où vient cette expérience, cette idée, ce sentiment? Est-ce qu'il tire sa vie du Dieu vivant? Est-ce que c'est l'idée de Dieu? Est-ce que c'est son plan? Ou encore, pour l'amener différemment, est-ce que ça produit sa vie? Ou la mort, la séparation? Tu sais, des fois, on peut se demander, « Ouais, là, ça semble bien, Seigneur, comment je fais pour savoir? » On reconnaît un arbre à son fruit. Si les bonnes idées que vous avez, si les bonnes solutions que vous avez, ça vous... au bout du compte, ça vous éloigne de Dieu, ça refroidit votre cœur par rapport à lui, puis à son peuple, ça vous isole, ben c'est comme Proverbe 18:1. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. » C'est la voie de la chair. Mais quand... devant le prix à payer, puis qu'on ne comprend pas, puis qu'on se confie en l'Éternel, puis qu'on découvre notre Dieu d'une façon qu'on ne l'avait jamais découvert, que la communion avec lui est douce, même dans la souffrance, que les frères et les sœurs, on ne les voit plus de la même manière, puis on est content d'être avec eux, puis je pense que l'origine est de Dieu dans ce temps-là. Et l'idée, c'est pas « je me sens-tu bien, je me sens pas bien », parce que des fois, c'est quand on se sent au pire, qu'on crie à Dieu, qu'on s'accroche à lui, puis comme résultat, on va bien se sentir, mais là, l'expérience originale n'était pas agréable. Souvent, c'est ce qui est l'origine de Dieu, parce que c'est ça la foi. Il faut y faire confiance. C'est ce que Paul disait, Paul qui est passé, un peu comme Job, hein, qui était vu comme tout le monde, comme « wow, il était donc beau », puis tout ça. Puis maintenant, il regardait les mêmes choses, son passé religieux. Puis il dit « je regarde toutes ces choses comme une perte ». À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voyez-vous, ce que Dieu faisait dans sa vie, ça grandissait tout le temps, ça l'amenait tout le temps à la source d'eau vive. Ça l'amenait tout le temps à de plus en plus grandir en son Dieu. Donc, la bonne façon de penser qui va mener à la bonne façon de marcher et de vivre, ça va toujours être en fonction du bien, de la vie et de la mort, et non pas du bien puis du mal. C'est le paradigme à travers lequel on doit regarder les choses. D'où viennent ces choses? Est-ce que ça vient du concept de bien puis de mal, comme le monde le dit, puis que ma chair est habituée, ah, ça c'est bien, fais-le, ça c'est pas bien? Ou est-ce que c'est à l'origine de Dieu vivant? Est-ce que l'origine est vivante? C'est ça, le juste qui vivra par sa foi. C'est abandonner l'autosuffisance. Ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, là, c'est qu'on peut avoir toutes les bonnes idées du monde et tout ça, mais si au bout du compte, ça m'amène à être le pilote automatique qui sert à vivre de façon indépendante, je passe à côté du but avec ça. Même aussi beau et bien, il y a des gens qui dépensent des fortunes à aller voir des gens pour leur dire comment ça va aller mieux, puis finalement, au bout du compte,
sont aussi indépendants qu'ils l'étaient au début. Puis un frère, une sœur, ils auraient juste pu passer du temps à parler, à prier ensemble, puis au bout du compte, si la personne est amenée à se confier dans celui qui est sa vie, il va avoir passé exactement par où Dieu voulait qu'il passe, puis il va être arrivé exactement où est-ce que Dieu voulait qu'il arrive, à lui, à Dieu. C'est ça le but. Dieu veut qu'on vive de façon dépendante. Abandonner l'autosuffisance pour vivre, c'est ces techniques de vivre, hein, pour essayer de fortifier notre chair. Puis, Dieu veut nous sortir de ça pour vivre cette dépendance programmée. Tu sais, le fameux chapitre dans Jean 15, là, Dieu nous a sauvés pour dépendre de lui. Je suis le seul, vous êtes les serments. Je veux dire, c'est une dépendance totale, ça. Il n'y a pas de fruit qui est possible par nous-mêmes. C'est une dépendance programmée. C'est ça le salut. Notre part, c'est de s'humilier. Lorsque Dieu nous fait vivre des choses, afin de voir dans ces choses, puis d'être convaincu, puis de croire profondément que s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Que placer notre refuge en le Seigneur l'Éternel, c'est ça. C'est là qu'est la vie. C'est là que ça se passe. Et c'est une conviction qui doit être profonde. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction de la foi, c'est un péché. Et c'est précisément là que le Seigneur nous amène, et je crois individuellement, mais aussi collectivement. C'est-à-dire de produire en nous et entre nous la conviction profonde et transformatrice, comme je disais, que l'esprit, c'est lui qui vivifie, que la chair ne sert à rien. Ou pour le dire dans les mots de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5 et 6, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voyez-vous comment il n'y a pas de confiance en la chair? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le Seigneur nous enseigne le ministère nouveau de l'esprit. C'est pour ça qu'on apprend à se réjouir même par le brisement. Je l'ai vérifié dans le dictionnaire, c'est un vrai mot, le brisement. Le brisement de l'épreuve, le brisement de la souffrance, de l'expérience de Job, de Pierre. Parce que c'est là que Dieu cache les plus grands trésors de sa grâce. Ce trésor, c'est lui-même. Puis écoutez ce que Dieu dit à ce sujet-là. Un autre verset d'Ésaïe. J'avais comme un trip Ésaïe pour mon message. Mais c'est tellement beau. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce que tu acceptes le rendez-vous que Dieu te donne, que Dieu t'a fixé? C'est ce qui est arrivé avec Job. C'est un rendez-vous. C'est un peu long là, comme rendez-vous, avec toute la prise de rendez-vous, mais c'est ça. C'est un rendez-vous. Puis le rendez-vous, il se passe à partir du chapitre 38. Et remarquez, je ne vous ai pas demandé si tu appréciais la façon que Dieu a fixé le rendez-vous. C'est pas ça ma question. Est-ce que tu acceptes son rendez-vous? Parce que si tu acceptes son rendez-vous, tu acceptes qu'il te le donne parce qu'il t'aime, parce que lui t'accepte en Jésus, parce que lui te veut, comme il voulait Job. Oui, il te veut dépendant et soumis. Ça, c'est des mots sales pour la chair. Hein? Mais savez-vous que pour l'Esprit de Dieu qui est en nous, quand on est un enfant de Dieu, c'est d'une beauté inouïe. C'est beau ces mots-là quand on les entend selon notre esprit régénéré. Donc, mon appel simplement, c'est répond à cet appel. Enfant de Dieu, l'appel de Dieu, notre source de vie authentique. Ne te laisse pas distraire, détourner, décourager par la souffrance de la prise de rendez-vous, mais vois que c'est un rendez-vous divin. Et peut-être que tu es ici, tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur. qu'il n'est pas ta vie. Ton Seigneur répond à l'appel de la grâce d'être réconcilié avec Dieu. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Rentre dans la vraie vie, choisis la vie, choisis Jésus-Christ comme ton sauveur. Merci Seigneur que ta parole, elle est la vérité, elle est d'actualité. On était dans le livre le plus ancien de la Bible. Oh, mais il n'est vraiment pas passé date. Il est d'actualité plus que jamais. Et merci Seigneur que tu révèles la pensée de Christ à tes enfants et tu révèles Christ à ceux qui ne te connaissent pas. On te prie Seigneur que ça fasse ton œuvre. Ce qui a été dit, que maintenant Seigneur, tu fasses ton œuvre avec ces choses, aussi maladroites et incomplètes puissent-elles être, Seigneur, notre confiance est en toi. Tu es le Dieu vivant, tu es le seul sauveur, tu es le Rédempteur. Et oui, tu vis. Tu vis au siècle des siècles. On s'en remet à toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Je te prie au nom de Jésus. Amen.